me, baby. No, yeah, you, baby. Back, oh, you groovy, baby. In, let's make a movie, baby. Time, excuse me, baby. Let's, yeah, you, baby. No, oh, you groovy, baby. Back, let's make a movie, baby. Time.
It's Special Worldwide, AGA, reporting live from Cape Canaveral. MK, Big Cypher's rap.
Back, back, in time.
Bonjour, Daniel Arnaison. Je suis né à Bourges en 1963, n'est-ce pas, le 3 août 1963. Et je vis depuis désormais 4 ans à Olivet, dans le Loiret. Voilà, je suis d'ailleurs l'ambassadeur de Radio Résonance à Olivet. Et aussi dessinateur. J'ai d'ailleurs publié pendant 2 ans et demi sur mon profil Facebook un dessin par jour, à peu près, ce qui a fait, à peu près 600, un peu plus de 600 dessins, voilà. Et puis, bon, 2 ans et demi, il y a des choses qui se sont passées et j'ai levé la main, voilà, tout simplement. J'ai posé un petit peu le crayon.
Gérard Bouillaguet. Alors, je suis né en 1948 dans la banlieue parisienne, suite à une exfiltration de Corrèze de mes parents. La dernière biographie de moi disait que je décédais en 2021. C'était une plaisanterie, mais maintenant qu'on s'approche, je me demande. Et donc, pour l'instant, je fais de la radio. Dans une vie antérieure, j'ai fait de la musique. Et à part ça, je suis pas bon à grand chose. Hein.
Radio libre.
Alors, radio libre. Eh bien, déjà, on est libre de faire de la radio ou pas. C'est important. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas sa vie en faisant ça. Et ça compte. Alors, du coup, on peut choisir ce qu'on a envie de faire à la radio, éviter ce qu'on n'aime pas, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Alors, historiquement, les radios libres, c'est parce qu'elles ont été interdites à une époque. Après la guerre, le gouvernement, c'était en 1948, je crois bien, hein, c'est quand je suis né, le gouvernement avait décidé de garder un monopole de diffusion hertzienne, que ce soit pour la radio ou pour la télévision. Il a fait ça de temps en temps depuis 1910, où on commence à faire des émissions radio depuis la Tour Eiffel. Hein, on a fêté les 100 ans cette année. Il y a toujours eu cette tentation de que l'État soit le seul capable de faire ça. Alors, ça nous a valu des radios qu'on appelait périphériques, c'est-à-dire qui n'étaient pas installées en France, mais dont les ondes étaient perçues en France parfaitement. Alors, il y a Radio Luxembourg, comme ça, qui était déjà un pays de non-droit, vous voyez. Hein. Il y avait Radio Monte Carlo, même remarque. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait encore. Il y avait une radio, à mon avis, en Espagne. Il y en a même eu, d'ailleurs, carrément sur des platines presque pétrolières, des radios offshore qui diffusaient dans les eaux internationales. Voilà. Et puis, Mitterrand est arrivé et il a il a fait tomber ce monopole d'État, ce qui fait que toutes les radios qui étaient plus ou moins pirates avant sont devenues autorisées. Alors, je ne sais pas si libre et autorisé, c'est la même chose. Ça, c'est un débat philosophique. Hein. En fait, les radios sont plus ou moins libres comme n'importe quoi et n'importe qui. Hein. La liberté, c'est de choisir ses contraintes, en fait. Et pour les radios, il y en a pas mal. Mais bon, ça a été un phénomène de société important en 81, 82. Bon, ça a mis quelques années avant de bien démarrer. Les radios libres, elles sont libres de deux façons. soit elles sont associatives, ce qui est le cas de Radio Résonance, soit elles sont commerciales. Lesquelles sont les plus libres, on ne sait pas trop. Les premières sont vaguement subventionnées, les deuxièmes sont sous le joug de la publicité, évidemment, car elles doivent être rentables. Disons que c'est des radios indépendantes. Le mot serait mieux choisi que libre. Mmh.
Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás.
Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Esperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo. ¿Hasta cuándo?
Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando,
quizás, 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 quizás. Quizás.
Alors, tout à l'heure, on a dit que vous étiez l'ambassadeur de Radio Résonance à Olivet. Alors, ambassadeur.
Ben, ambassadeur, c'est-à-dire que lorsque j'ai quitté la bonne petite ville de Bourges, hein, même si je suis d'ailleurs très content d'être avec vous, Gérard, aujourd'hui, dans ce studio, ici, là, quasiment au cœur de la périphérie.
Oui, nous avons rappelé notre ambassadeur pour consultation.
Oui, c'est gentil. D'ailleurs, vous inquiétez pas, toutes les tractations menées à Olivet n'ont pas abouti, donc j'ai vocation à y rester. Ah. Tant que ces tractations, effectivement, n'aboutissent pas sur un accord. Hein. Alors, être, comment dire, non pas la voix de son maître, mais la voix, donc, ce qui serait... Imaginez, la voix de son maître dans une radio, travaille dans une radio libre.
Eh ben oui, bien sûr, oui.
Ce serait quand même... Mais, écoutez, voilà, Olivet... Qu'est-ce que j'aurais à en dire que j'ai déjà dit, c'est-à-dire il y a une très très belle promenade le long de Loiret. Il n'y a pas de cathédrale à Olivet, mais la cathédrale pour moi, la cathédrale d'Olivet, c'est cette promenade le tout au long du Loiret. Puis de toute façon, je suis athée, donc on ne peut pas dire qu'une cathédrale me manque.
Non, c'est joli à regarder. Comme
voilà,
ça, mais
c'est.
Bon,
J'adore effectivement me promener dans une cathédrale et me dire c'est imposant. D'ailleurs, c'est ce que je dis, c'est chaque fois qu'on voit une cathédrale ou récemment la dernière tour contemporaine qui a été construite à Arles, on voit qui c'est le patron, même si cette tour est plutôt un musée d'art contemporain. Mmh. Mais c'est la démonstration, c'est qui règne quand même. Hein, mmh. Qui, voilà, tout ça. Donc... voilà, que vous dire d'autre, je suis content d'enregistrer mes émissions d'Olivet, d'avoir pu continuer à tenir cette activité, ma foi, fort, fort agréable de faire des déconiques, tout simplement.
Mmh. À propos des cathédrales, il me vient une idée, c'est extraordinaire le nombre de choses magnifiques, même... utiles, qui ont été faits sous l'impulsion d'une connerie, un peu. La radio libre, eh ben, avant d'être une civile, c'était militaire. Ce sont les militaires qui ont développé la radio. Internet, ça a été développé par les militaires, etc., etc. Et les cathédrales, ben, c'était pas des militaires, mais c'était quand même des dictateurs, un petit peu.
C'était bon, ça. Ce qu'on dit, c'est il y a cet aspect d'unifier tout un territoire géographique, en l'occurrence l'Europe, donc au Moyen-Âge, évidemment. Bon, on répète, c'est des sentiers battus, mais voilà, c'est Dieu est le patron à cette époque-là.
Mmh, tout à fait.
Mais évidemment, qui est Dieu et donc qui est le patron, c'est... Ça va, bon.
Mais il y a une grosse différence avec maintenant, c'est que le patron était vénéré, alors que maintenant, oula.
Ça, c'est autre chose.
Ce qui m'a frappé, mon cher ambassadeur.
J'espère que ça ne vous a pas frappé trop fort quand même.
Non. C'est que très souvent, vous saviez des choses sur Bourges que moi qui y vivais ne savais pas.
Facebook. C'est-à-dire les fameux réseaux sociaux qui à la longue, moi ça fait quoi? Ça fait maintenant 4 à 5 ans que je suis sur Facebook. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai publié un dessin par jour pendant à peu près 2 ans et demi. Donc le moyen que j'avais d'avoir des nouvelles de la bonne petite ville de Bourges, c'était évidemment par des personnes avec qui je suis ami à Bourges, ou des sites, le site du journal local, le Berry Républicain, voilà, et puis donc d'avoir des informations comme ça qui passaient, à savoir bien sûr le changement de municipalité, qui a quand même été... changer quand même tous les notables d'une ville en même temps pour d'autres notables, c'est quand même notable,
oui,
en soi. C'est quand même bon, même si évidemment je le dis avec plus un brin de sympathie malgré tout. Mais oui, bah, c'est tout simplement Facebook qui, comme j'ai pas d'autre discours que ce qui se dit sur les réseaux sociaux, qui est le lieu un petit peu de, à la fois des égos. C'est-à-dire, il y a vraiment beaucoup d'égocentrisme sur Facebook. Il y a vraiment aussi beaucoup de, je trouve, de débats d'excès. Effectivement, quand on lit certains débats où Tout d'un coup, on est même soi-même pris à partie. Au début, je me suis fait piéger comme ça, en étant pris à partie. Et d'ailleurs, j'attendais de la dame qui avait... Ah, je me souviens vraiment d'une conversation, c'était sur le féminisme, et puis j'avais eu une phrase un peu, peu politiquement correcte. Et j'ai été pris à partie violemment, et je m'attendais à ce que la dame qui avait ouvert la conversation sur son propre compte intervienne et signale que ça allait trop loin. Que nenni, rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui ouvrent des dialogues, des débats, et puis ils laissent tout aller comme ça, donc en fait, tout peut se passer, on peut se faire traiter de tous les noms, on peut... voilà.
Un débat, normalement, hein, c'est des échanges d'arguments.
Normalement, oui. Mais ça tombe tout de suite, c'est ça le problème de ces réseaux sociaux. C'est que ça tombe tout de suite sur quelque chose qui est lié aux égos. C'est tout de suite lié à la personnalité des personnes ou ce qui peut paraître comme étant les personnalités des personnes, voilà. Oui. C'est un petit peu ce qui est fatigant. Mais je pense que, grosso modo, ma génération utilise moins bien les réseaux sociaux que les plus jeunes, qui, eux, sont nés avec. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont inscrits à des réseaux sociaux, mais qui ne publient rien, qui ne donnent jamais leur opinion. Et je me demande si
c'est... écoute celle des autres
Ah, ça, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai remarqué ça. Qu'effectivement, j'ai quelques... Parmi mes amis Facebook, j'en ai pas beaucoup par rapport à d'autres. Mais j'ai quelques jeunes personnes, enfin, plus jeunes que... J'ai déjà mes garçons, enfin, bref. Et il n'y a jamais une opinion qui vient. Il n'y a jamais... C'est-à-dire, ils sont inscrits... De temps en temps, il y a une photo qui passe, qui participe, ou quelque chose comme ça, mais je crois qu'ils sont plus prudents. Non pas au sens paranoïaque du terme, hein, mais tout simplement au sens de « je veux pas être pris à partie parce que j'aurais telle opinion ou telle autre
oui. ».
Au fond, ça m'intéresse pas.
Ou alors ils sont peut-être délayés, c'est-à-dire qu'ils sont sur un réseau, un deuxième réseau, un troisième réseau, il y en a 4 ou 5, c'est peut-être ça aussi.
Je sais pas.
Mais les réseaux sociaux, pour... Quelqu'un qui dessine, c'est presque mieux qu'une galerie d'art.
Ah, en tout cas, c'est grâce effectivement à mes publications de dessins sur Facebook que j'ai pu faire mes dernières expos. C'est-à-dire l'année dernière, quand nous étions à peu près... Quand
on était rencontrés
chez,
Borne. Oui,
chez Anne Reverdy et Christian Niami. Bon, c'est malgré tout grâce à ces publications qu'Anne Reverdy... avait suivi depuis le début. D'ailleurs, saluons-les. Christian Niami, qui a fait un excellent résultat au championnat du monde. Vous en avez parlé.
Oui, on en avait parlé. Il a fini 4e, je crois.
12e.
12e.
Non, 8e.
8e, ah bon.
8e au dernier championnat du monde de jeu de dames. Je ne sais plus si c'est en Lettonie.
Oui, c'est ça, oui.
Oui, oui.
À Tallinn.
Oui, il a fait un super résultat. Bravo à lui. Parce que c'est quand même un joueur, effectivement, de dames très talentueux, mais quelqu'un d'éminemment sympathique qui habite notre département et notre région. Et qui, on peut le dire, mérite d'avoir un soutien, financier, tout simplement. Il ne m'a rien demandé, hein. Alors là, il sera peut-être pas d'accord, mais qui mérite d'avoir un soutien, en tout cas des officiels, qu'il donne des cours, enfin, que quelqu'un qui est aussi, je le dis, je le redis, sympathique et talentueux pour son sport, hein, mérite d'être officiellement engagé comme entraîneur, en tout cas, je pense.
Et à propos de jeux de d'échiquier, on joue aux échecs à Olivet.
Un très bon club d'échecs.
Ouais.
Très bon club d'échecs. Et ça dévoile un petit peu la prochaine question que j'allais vous poser, mon cher Jean. Mais évidemment, avec la pandémie, on a joué sur des plateformes.
Et oui,
en ligne.
Ça s'y prête. Oui, c'est voilà. Vrai, ouais.
Donc, j'ai passé un temps excessif à jouer aux échecs en ligne. Et donc, mon cher Gérard, comment avez-vous, depuis l'année dernière, passé cette période de confinement, déconfinement, de pandémie ?
Alors, en fait, la pandémie, pour moi, c'est plutôt par la télévision ou la radio où j'en ai entendu parler, parce que personnellement, je n'ai pas croisé un seul malade. Il y en a bien eu pourtant, mais ça ne s'est pas trouvé. Maintenant, je croise une quantité de gens qui sont vaccinés. Bon, très bien. Et je pense que si j'ai été protégé de cette pandémie, c'est d'une part parce que j'habite dans un petit village où il n'y a quand même pas beaucoup de monde. Et puis d'autre part, je pense que c'est lié à ma misanthropie naturelle. Voilà, je ne suis pas favorable aux foules, aux réunions, à toutes ces choses-là. J'aime bien les gens, j'aime bien quand ils sont à une certaine distance, en fait, c'est ça. Et alors pour la contagion, c'est pas un terrain favorable, je dois pas être un terrain favorable pour la contagion. Et puis, je n'ai pas été gêné dans mes habitudes, puisque d'abord professionnellement j'étais à la retraite, donc... pas de problème de travail. La radio, c'est typiquement quelque chose qu'on peut faire par correspondance, par Internet. Vous en savez quelque chose, mon cher ambassadeur.
N'est-ce pas ?
Et en fait, la radio n'a pratiquement pas été affectée par la pandémie. Il y a eu 2 mois de... de panique, un peu, oui, c'est ça, hein, où tout était interdit, on n'avait plus le droit de sortir de chez soi, etc. Il fallait un mot de ses parents pour aller faire ses courses. Et en fait, cette première sidération passée, la radio n'a connu pratiquement... n'a connu aucune séquelle de cela. Hein. Et elle va pas mieux maintenant que l'épidémie est calmée, qu'en plein... en plein milieu de l'année 2020. Mmh. Et puisqu'on en est là, soignons.
Ah. Alors, soignons. D'une part, je vis avec une soignante, une aide-soignante même. Et donc, j'étais très au fait, très vite, hein, des difficultés de ce métier. Voilà, de la pénibilité de ce métier. Et puis ensuite, je suis tombé malade. Et j'ai eu affaire à de multiples, soins et de multiples soignants, allant du chef de service de pneumologie de l'hôpital d'Orléans. Si on se réfère à un référentiel hiérarchique, aux aides-soignantes et aux personnes qui font le ménage, tout simplement, dans les chambres, au fur et à mesure, et surtout dans cette période aussi d'épidémie, où il y a eu un surcroît de travail à ce niveau-là aussi, tout simplement de désinfection des locaux à chaque fois, des ambulanciers, un paradigme, dans les mots savants, très large du personnel soignant. Et je n'ai jamais été mal soigné.
Oui.
Voilà. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais été maltraité.
Oui, oui. Alors qu'il y a une espèce de mode qui consiste à dénigrer les soignants qui reçoivent mal les malades. On critique pas leur savoir-faire technique, on critique leur entre-gens, en fait. Hein. Peut-être qu'on attend d'eux des services qu'ils ne sont pas habilités à rendre, des services psychologiques qu'ils ne sont pas habilités à rendre, mais de là à leur tomber dessus, quelquefois, pour dire « Oh, ça marche mal », on est mal reçu, c'est embouteillé, bon voilà. Moi j'ai vu plein d'articles sur le journal local, comme quoi les urgences de Bourges étaient complètement dépassées par les événements. Il se trouve que j'ai dû, pour mon épouse, y aller deux fois, ça s'est passé très très bien. Il y a eu, déjà, il n'y avait pas une file d'attente importante, il y avait du personnel, et tout fonctionnait parfaitement. Alors, il y a peut-être des jours comme ça, je ne sais pas.
Moi, je me répète, j'ai été dans tous les services que j'ai pu traverser avec ce cancer, et donc les multiples développements, les fameux chimios, les opérations les plus diverses, l'immunothérapie, bref, la radiothérapie, etc. Bref, à peu près toute la panoplie et tout le catalogue.
Tout le Bataclan. Bon, pour
voilà. Et là, j'ai eu, mais alors, une écrasante. J'ai jamais eu de gens ouvertement désagréables. J'ai pu sentir des personnes qui étaient soit fatiguées.
Oui, c'est ça. Voilà.
Et quand on est fatigué, eh ben, on retient un peu moins. On est peut-être des fois un peu moins. On a un peu plus tendance à être un peu moins diplomate, mais je l'ai très très peu senti. Ça m'est arrivé une ou deux fois, et franchement, j'ai pas du tout eu à me plaindre, surtout dans cette période avec un surcroît de travail pour tous les services, et principalement des services de pneumologie. D'ailleurs, on a très peu entendu, on a entendu des épidémiologistes, on a entendu des personnes qui faisaient de la stratégie, pareil, au niveau de la pandémie, de l'épidémie, des épidémies, etc. Mais on a très peu entendu, je pense, dans les médias, des pneumologues, alors que, ou des personnes issues des services de pneumologie, alors que c'était, malgré tout, eux qui étaient les premiers, j'allais dire, au contact de la Covid, enfin voilà, oui. de l'épidémie de Covid.
Sous prétexte que c'était un nouveau virus, on a oublié les gens qui s'occupaient des virus depuis 20 ans, et on s'est extasié devant le fait qu'on ait trouvé un vaccin en un ou deux ans, un an pratiquement, hein. Et en fait, cette prouesse technologique a été rendue possible parce que depuis très longtemps déjà, on s'occupait de la question sans que personne n'en parle, évidemment. Les fameux vaccins ARN, c'est une technologie qui ne concerne pas que le vaccin, d'ailleurs, hein, qui probablement, c'est la génothérapie, c'est probablement une technologie d'avenir. Et les grincheux qui ont peur qu'on les vaccine aujourd'hui seront certainement les premiers à en profiter demain.
Sans doute, oui. Je rejoins totalement votre point de vue. Et puis, il faut voir aussi. Bah, c'est comme ça. C'est parce que là, on parle à, j'allais dire, très tranquillement. Mais je pense que malgré tout, les anti-vaccins. Il y a quand même beaucoup, et ça, il y a eu quand même pas mal d'études, j'allais dire, sociologiques. Il y a quand même beaucoup de croyances aussi là-dedans.
Comme, oui, bien sûr.
Qui c'est de religiosité qui se balade dans tous ces mouvements anti-vaccins. Et voilà, bon, c'est vrai aussi que, bon, il y a eu, pour en avoir discuté à Olivier, donc. Avec un ami joueur d'échecs, du coup.
C'est à ça que ça sert, un ambassadeur. On sait ce qui se passe chez les pays éventuellement ennemis un jour.
Voilà. Bon, il y a peut-être des personnes qui ont été, j'allais dire, victimes de. À un moment donné, il y a eu un défaut de vaccin. Il y avait un vaccin qui apportait quelques cas d'hépatite.
Oui.
Voilà. Bon. Et ça a tout.
C'est donc bien un problème de foi.
Oui, c'est un double problème de foi. Oui. Voilà, non, mais vous avez totalement raison de dire que on a beaucoup trop dit et on a, enfin, pas nous, mais bien sûr, beaucoup trop fait à ce niveau-là.
Notre président qui disait qu'on était en guerre, alors c'est vrai qu'il y a eu des morts, mais en même temps, il y a eu des progrès, mais c'est souvent le cas. Pendant la guerre, on fait des progrès techniques considérables. Hein. l'énergie atomique. Bon, à Hiroshima, ils n'aiment pas beaucoup ça, mais il faut reconnaître que l'humanité en profite maintenant pour faire de l'électricité. Et c'est une expérience pour l'humanité qui, à la fin, s'avérera peut-être profitable. Ce qui n'a pas été le cas pour les grandes épidémies précédentes, la peste, même la grippe espagnole de 1918, on n'était pas prêt à recevoir ça, on n'en a pas profité. Cette fois-ci, ça a été un challenge que l'humanité a pu relever, je pense.
Oui.
Je ne garderai pas un mauvais souvenir de cette épidémie. Ben oui, c'est malheureux, c'est à dire, mais c'est sincère.
Oui, non, mais moi, il y a des habitudes qui ont bien sûr évolué, et puis, comme je vous l'ai dit précédemment, je me suis retrouvé dans des services de soins, donc qui soit s'apprêtaient à faire face à l'arrivée de la Covid au début où j'étais hospitalisé, soit y était carrément et donc se réorganisait, se métamorphosait en fonction de évidemment de ce qu'il pouvait savoir quoi, et puis surtout du taux d'occupation des lits dans les services, et particulièrement le service de pneumologie par exemple de l'hôpital d'Orléans, l'hôpital de jour qui a dû être qui a continué de fonctionner, hein, faut quand même le signaler. Normalement, quoi. Je veux dire, quand on voyait que, quand j'entendais que des soins ne pouvaient pas être assurés, c'était peu rassurant. Mais non. Enfin, apparemment, pour l'hôpital d'Orléans, ça tout s'est bien passé. Enfin, tout s'est bien passé. Bon, passons. Je veux dire, en tout cas. Par rapport aux soins.
Voilà, le service mis en place a été rendu.
Voilà, tout simplement.
Et même le masque, je m'y suis habitué au masque. C'est pas que j'aime ça, mais ça permet quelquefois de ne pas être obligé de sourire aux gens. j'ai remarqué, par exemple, lors de l'inauguration de la Maison de la Culture, Madame Bachelot avait un masque.
D'accord.
Contrairement à la plupart des autres invités, et ça lui permettait, à mon avis, d'esquisser un sourire en coin lorsqu'on lui parlait de Bourges, capitale européenne de la culture.
Piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu bárbula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero. Para nada me sirve sin ti. abrazarme. Quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero.
Ah oui, Bourges.
Oui, Bourges, bah oui.
Bourges, voyons.
Oh, parlons-en encore un petit peu tant qu'on peut, parce qu'un jour, ça va devenir une ville tellement culte qu'on pourra même plus y venir.
Oui, ça sera comme la Trabant.
Oui.
ça sera une ville iconique. La Trabant, pour les plus jeunes auditeurs et auditrices, c'était la voiture iconique du régime de l'Allemagne de l'Est. Hein.
Oui.
Voilà, c'est un.
Et maintenant, ça se vend à prix d'or. Hein.
Ah, tout à fait, oui. Ça fait partie de. Ben, c'est iconique. Alors pourquoi Bourges ne devrait-elle pas devenir une ville iconique, hein, n'est-ce pas, après tout.
Déconique.
Oui, ben, ça, bon, on essaye, mais bon. Heureusement, malgré tout, que. C'est ce que j'ai vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et là où j'ai été malgré tout pas mécontent de voir des élus au ministère de la Culture défendre que la fameuse École nationale des beaux-arts de Bourges, l'École nationale supérieure, je m'y ferai jamais, d'art de Bourges, demeure en centre-ville contre vent, marée et écroulement d'ailleurs.
Mais
et
oui.
Donc, il y a eu une réunion au ministère de la Culture avec M. Cormier-Bouligeon, qui est un député, la REM, comme on dit, Mme Irène Félix, qui est donc la présidente de l'agglomération de Bourges, et
M.
Yann Gallu, maire de Bourges, donc.
C'est compliqué, l'École nationale d'art. Je ne sais pas qui est propriétaire des locaux. Je crois que c'est le ministère. Mais ce n'est pas sûr. Ça peut être la ville de Bourges. C'est l'agglomération de Bourges qui a la responsabilité de tout ce qui est enseignement supérieur. Et évidemment, c'est l'État qui règle les problèmes pédagogiques. Moi, j'ai connu ça au conservatoire, où, en fait, on était payé par le maire de Bourges, mais c'était le ministère de la Culture qui disait qui est-ce qu'on pouvait embaucher, et à quel tarif, etc. Enfin, c'était on appelait ça une école nationale, on a changé ça, on appelle ça un conservatoire, maintenant. À rayonnement, je ne sais plus quoi, départemental, je crois que ça doit suffire. Et Le cas de la maison de l'École nationale d'art supérieure, il est possible qu'elle quitte le centre-ville au moins le temps de faire les travaux, parce que ça va être très complexe. Et il était question de la mettre à l'ancien siège social d'Axéréal. Et je me suis dit, tiens, au fait, ils ont transformé cette école en supérieure pour que les professeurs puissent se faire du blé. Et ben voilà, ils vont y être.
Ben c'est un peu ça, hein. De toute façon, c'est ça qui s'est passé, puisque on sait très bien que le passage de l'école nationale à l'école nationale supérieure était surtout une revendication, j'allais dire, salariale, puisque les salaires ont été effectivement augmentés dès que l'école nationale des Beaux-Arts de Bourges a été, est devenue supérieure. Je me souviens de deux profs, un homme, une femme, hein, c'était la parité, qui m'ont dit, franchement, à l'époque, que ça changeait absolument rien à leur enseignement. Par contre, que cela changeait beaucoup à leur feuille de paye. Il faut avouer qu'il y a eu du lobbying qui a été fait par les syndicats des écoles qui sont devenues nationales supérieures. Par contre, ils n'ont absolument rien fait.
Pour
les écoles territoriales.
Oui,
le personnel des écoles nationales supérieures et les syndicats des écoles nationales supérieures n'ont absolument pas été solidaires d'un alignement des salaires des écoles territoriales sur leurs salaires à eux. Mais absolument pas.
Et puis ça manque beaucoup, ça. Je vois.
Mais c'est ça qui est dommage.
Dans le domaine de la musique. Une petite ville comme Vierzon a une école de musique municipale qui fait du travail. Hein. Mmh. Et avant qu'il y ait une école nationale supérieure à Bourges, il y avait déjà une école nationale de musique. Et depuis le milieu du 19e siècle, c'est très ancien. Et ce maillage, qui a quand même donné des résultats, n'existe pas tellement dans le domaine des arts graphiques. On fait un peu de dessin, de peinture à l'école, vaguement. Il y a des profs d'art graphique à l'école, mais il n'y a pas de club, de choses pour s'entraîner, pour apprendre au début, quoi. Mmh. C'est bien au sommet de la pyramide, mais en bas, il n'y a rien.
Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est parce que on l'a déjà évoqué plusieurs fois ça commence déjà à dater, d'autres qu'autant le rappeler. Je trouve que le maillage de la musique et j'allais dire la démocratie qu'il y a au niveau de l'enseignement musical est beaucoup plus important que celui qui est effectué au niveau des arts plastiques.
Oui.
Beaucoup plus.
Oui.
Après, moi, je me redis, ce qui est franchement dommage, je sais pas, franchement, qu'il y ait du lobbying, je m'en fous, pour les salaires, c'est pas là le problème, mais c'est qu'il n'y ait pas eu cette solidarité vis-à-vis des autres enseignants, et qu'il y ait eu cette espèce de... Oh, moi, je travaille dans une école nationale supérieure, et grosso modo, les gens qui sont dans l'administration territoriale, ils sont pas dans le supérieur, quoi. Et je m'en fous, quoi. Et je vais pas me battre pour eux, quoi. Y compris quand ils revendiquent. Voilà, c'est ça qui est extrêmement dommage.
Ouais. Bon, c'est pas tout ça, mais il faudrait essayer de pas conclure.
Oui, comment on fait pour ne pas conclure ?
Alors, j'ai une proposition. Un grand silence qui en dit long.
Oui, mais ça va saturer, non ? Il va pas y avoir une saturation ?
Non, non, on va s'occuper de ça. La technique suivra.
Ah, la technique suivra, Gérard, écoutez.
Très bien. Au revoir, chers auditeurs et auditrices.
Oui, à bientôt.
They can try if they want to. What pits are a bit raw. Took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. Ain't fought blind against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts. Not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time.